Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec Sous nos regards, écrit par un collectif de femmes. C'est un livre coup de poing dont je vais vous parler aujourd'hui. Un livre dont il n'est pas assez question dans les médias, un livre qui devrait être entre toutes les mains. Voici la présentation qu'en fait l'éditeur, Le Seuil, sur la quatrième de couverture. Ce sont des femmes que tout le monde regarde, mais que personne ne veut voir et encore moins entendre. Elles sont parties civiles dans deux procès majeurs qui doivent se tenir en France, ceux des affaires French, Bukake et Jackie et Michel. Pour la première fois, les organisateurs, producteurs et acteurs de la violence pornographique seront jugés pour un système d'exploitation et de domination des femmes, de violences sexistes, racistes et classistes, traite des êtres humains en bande organisée, proxénétisme, viol en réunion, violence, chantage, menace. Des dizaines de femmes ont porté plainte. 15 autrices sont allées à leur rencontre pour raconter leurs histoires. Chacune, à leur façon, elles disent à la fois leur résistance farouche et la violence qui continue longtemps après les tournages. Préface de Christelle Tarot et Lorraine de Fouché. Récit de Marine Bachelot Nguyen, Béatrice Bienville, Adélaïde Bon, Nadège Catelineau, Agathe Charnay, Pauline Delabroix Allard, Ixel Delaporte, Hélène Devinck, Diati Diallo, Karima Elkaraz, Dali Farah, Carole Five, Alice Géraud, Myriam Leroy et Agnès Vanou Vong. Les droits d'autrice et les bénéfices générés par la vente de ce livre sont reversés à la Fondation des femmes, afin de soutenir les associations qui aident les victimes des violences porno-criminelles. J'ai d'abord lu ce livre parce que Dali Farah en est une des autrices. Après la lecture, je n'avais qu'une question à lui poser, une question un peu étrange. Pourquoi c'est Dali avec un D minuscule dans « Sous nos regards » ? Réponse. Le petit D est ma volonté. La lettre majuscule est une boursouflure qui m'a toujours déplu. Cette réponse dit tout. Le projet Sorore et littéraire de « Sous nos regards ». Pourquoi s'intéresser à des femmes qui ont joué dans des films pornographiques et portent plainte ? Parce qu'elles n'ont pas joué, parce qu'elles ont été torturées et détruites, parce qu'elles parlent quand même. Parce qu'une majorité de la population les a regardées et continue de les regarder pour en jouir. Qu'on donne aux enfants, aux jeunes adolescents, aux jeunes adultes, hommes et femmes, l'idée que le sexe c'est ça. La violence, les coups, la domination, l'humiliation et l'avilissement de la femme. D'un côté, ces vidéos et images sont sur tous les écrans, et d'un autre côté, l'éducation à la sexualité à l'école est repoussée aux calendes grecques. Pourquoi s'intéresser à cette histoire ? Parce qu'elle nous concerne tous et qu'elle révèle la transparence de la misogynie. Voici ce qu'en dit Christelle Tarot, historienne et féministe, à la fin de la préface. Pour toutes les femmes qui peuplent ce livre de leur extraordinaire présence, victimes et autrices, mêlées non dans le même vécu mais dans une commune chaleur de cœur et de pensée, dans une volonté de faire corps, ensemble, au sein de ce peuple des femmes si malmenées ici et ailleurs, dans un désir collectif de résister à la violence systémique qui nous assaille et nous abîme, individuellement et collectivement, directement ou indirectement, dire non c'est avant tout refuser d'errer ou que d'autres errent. Ad vitam aeternam, dans l'enfer du pornland. À l'heure de l'Internet au débit, la technologie et le porno font en effet plus que jamais bon ménage. Cela explique que filmer un jour correspond le plus souvent à diffuser toujours, d'autant que les vidéos sont en général hébergées sur des serveurs en dehors de la France et qu'une vidéo interdite par la justice française de longue lutte, après qu'une victime a finalement porté plainte, trouvé un ou une avocate, obtenu une enquête et un jugement, disparaît du site incriminé pour réapparaître quasiment aussitôt sur un autre. Indépendamment de ce que l'on pense du porno, on doit convenir que dans le monde tel qu'il est, un monde guère féministe, comme chacun et chacune sait, où règne sous des formes plus ou moins édulcorées ou plus ou moins brutales la haine des femmes, le droit à l'oubli de celles qui ont tourné dans l'une de ces vidéos est quasi nul. Car non seulement tout le monde regarde du porno, même si les hommes sont toujours très majoritaires à le faire, mais on en visionne de plus en plus jeunes. Selon le rapport du HCE, la part des mineurs fréquentant les sites pornographiques a fortement augmenté en 5 ans, passant de 19% fin 2017 à 28% fin 2022. Ainsi, ce sont 51% des garçons de 12-13 ans, 59% des 14-15 ans, 65% des 16-17 ans et 55% des 18 ans et plus qui consomment de la pornographie de manière mensuelle. On regarde du porno à tous les âges et on en regarde partout, de la mégalopole la plus dense au village le plus isolé. Comme le souligne Amélie, les vidéos porno passent les frontières plus vite que la drogue. Captive à perpétuité, regardée par tous et pour toujours, Amélie court après sa vie. Ça fait 12 ans que ça dure, 12 ans, 18 déménagements, autant de villes différentes, une vingtaine d'emplois, et à chaque fois, tout recommence. Car, indépendamment de ce que l'on pense du porno, on doit se souvenir qu'une femme qui en a touché, une femme qui aime la bite, comme ils disent usuellement, et on comprend qu'il ne s'agit pas, pour eux, d'un compliment, mais bien d'une salissure tenace, d'une marque indélébile qui excuse par avance tout leur comportement, au nom d'une réputation entachée et d'une putophobie banalisée, est une femme qui ne s'appartient plus, car elle devient la chose de tous. Elle est entrée dans le domaine public. Ton cul, j'ai vu ton cul sur Internet, dira à Amélie un client du Leroy Merlin où elle travaille alors, obligeant celle-ci à fuir une fois de plus. Parce que, indépendamment de ce que l'on pense du porno, on doit reconnaître qu'il est aujourd'hui très majoritairement une entreprise masculiniste, hétéronormative et raciste, qui broie en priorité des femmes pauvres, des femmes racisées. Exercer et maintenir son pouvoir et faire du blé doivent donc être pensées comme les composantes d'une même dynamique. Dans le monde tel qu'il est, une pute reste une pute, avec toutes les conséquences que cet état de fait produit dans la vie réelle de femmes réelles. Des hommes reconnaissent Émilie dans la rue, certains la suivent, d'autres menacent d'envoyer les vidéos de son calvaire à ses proches, comme ça, juste pour la punir. En effet, indépendamment de ce que l'on pense du porno, on doit comprendre que pour nombre de femmes, l'industrie du X est essentiellement aujourd'hui une œuvre de déshumanisation. Elle utilise les femmes dans le porno, demandes et limites non respectées, pratiques imposées, contrats illégaux et salaires de misère, violences sexistes, sexuelles et racistes instaurées en système. Et le porno devient ensuite une arme contre elles, chantage et raquettes, pour que les vidéos soient retirées des sites, menace d'envoi aux proches ou au milieu professionnel en cas de refus ou de retard de paiement, intimidation quand les femmes portent plainte. Rien ne se perd dans le gonzo hétéro-macho. Voici ce qu'ajoute Lorraine de Fouché, journaliste au service Enquête du Monde, dans le premier texte intitulé « Les affaires French, Bukake et Jackie et Michel ». Quelles ont été les conséquences de ces images de destruction des femmes sur la sexualité des millions de personnes qui les ont visionnées, sur les pratiques de mes copains, des hommes avec lesquels je pourrais avoir des relations sexuelles? M'appuieront-ils sur la tête pour obtenir une fellation étouffante? Ou tenteront-ils un étranglement? Pourquoi je parle de moi? Pourquoi j'instille des éléments de ma propre individualité au milieu de ces textes? Parce que je ne veux pas tracer de frontières surplombantes entre les récits des jeunes femmes de ces affaires et ma vie de journaliste. elles sont les premières victimes de ce soft power misogyne qui vise à forger la sexualité de toute une société. Je crois à la solidarité au sein de la classe des femmes. La domination masculine est adossée à la concurrence féminine. Je crois au soutien de celles protégées par leurs privilèges, à l'endroit de celles empêchées par leur genre, leur classe, leur race. Lecture d'extrait. Ils me disent « C'est toi qui as choisi de te retrouver là, qui t'es mise dans cette situation, qui t'es infligé ça à toi-même, toi qui en es responsable, une pute. Tu aurais pu t'opposer, partir, poser tes limites. Tu n'étais pas obligée de dire oui. 3 jours d'affilée, personne ne t'a forcé à rester ni à revenir. Tu n'es pas si naïve. Quelque part, tu l'as cherché. Tu voulais ça. C'est ton truc, ces choses-là. Tu aimes ça. Et souviens-toi, tu as signé un contrat. Tu as pris l'argent, rien qu'une pute. » Le piège est fermé. Et la proie, c'est moi. Je dois vous parler des millions de types qui cliquent. Je dois vous parler des millions de types qui téléchargent, qui téléversent. C'était un extrait de « Je dois vous parler de » Mélanie avec Adélaïde Bon. Elle dit « Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. » Ils disent « Le contrat, elle l'a signé. » Qu'on ne peut pas traiter même en voyant les psychologues. La dissociation, ils ne savent pas. Elle dit « C'est comme quand on prend une feuille, on la chiffonne. Même quand on va vouloir la remettre, bien, elle ne sera jamais comme avant. » La contrainte physique, les mains sur la tête. Elle pense ne pas pouvoir guérir de toutes ses blessures. Elles resteront toujours là. Elle dit « Il y aura des rêves jamais accomplis. Je n'espère rien. » Je me laisse porter par la vie. Les mains qui attrapent les bras, ils ne savent pas. La présence des autres. Elle dit qu'on trouve de la force là où on pensait pas en avoir. La prédisposition à subir des violences. Elle dit qu'elle n'a pas porté plainte pour elle, mais pour qu'il ne puisse pas recommencer. Le conditionnement quand tu as subi dans ton enfance. Ils prétendent ne pas connaître, ils en rient. Les appels des cassos. Elle dit, c'est tout le milieu qui est pourri, c'est pas que. Il y a eu des dérives chez tous les producteurs, ils ont eu les mêmes procédés, au final, ils sont tous reliés. La contrainte psychologique, ils ne savent pas. Elle dit qu'elle ne sait pas si la société est prête à les reconnaître vraiment en tant que victimes. Parce que c'est les mêmes qui engueulent. On ne va pas recommencer à cause de toi. Même si la justice les a reconnus, elle dit qu'elle lisait les commentaires des gens. Quand les premiers articles sont sortis, elle dit « Pour eux, on s'est déplacé, on a accepté certaines choses, alors on n'est pas des victimes, on devrait accepter tout. » Elle dit « Je l'ai pensé longtemps. » C'était un extrait de « Puisqu'elle est venue » à avec Béatrice Bienville. J'ai fait lire à Émilie une première version de ce texte. Elle a dit que c'était très bien, qu'il n'y avait rien de plus à écrire. Mais j'ai compris en parlant avec son amie qu'elle l'avait à peine survolé, que se voir ainsi portraituré ne lui avait pas tellement plu. J'ai senti que je l'avais sans doute dépossédé de son récit, en pensant lui redonner une voix, car au fond c'était moi qui parlais, c'était mon regard que j'offrais. Son amie lui a demandé ce qui, dans ses lignes, paraissait lui manquer, et du côté d'Émilie, ça a comme ouvert un robinet. La jeune femme a renvoyé 1, 2, puis 3 messages amers et révoltés où il était question des obstacles, des chemins bloqués avant d'être entendus, mais aussi des difficultés à faire face à la vie de tous les jours quand tant de gens vous ont vu être agressés et ont visionné ces images avec plaisir et envie, nos patrons, nos collègues, notre boulanger. Émilie a dit « Je me sens souillée, scrutée et jugée en permanence. C'est une torture incessante qui ne prendra fin qu'à ma mort. Des pensées sombres m'envahissent, l'envie de fuir et de tout abandonner, de partir sans un mot en pensant que personne ne versera une larme pour moi. L'envie de triompher est là, mais je suis enchaînée par mes démons. » Je ne sais pas si l'on peut se reconstruire, se redéployer après avoir vécu ce qu'Émilie a vécu. Je ne sais pas si c'est de la résilience ou un vœu pieux, mais le dernier message d'Émilie dit « Je veux partager ma vision d'un monde où le respect, la solidarité, le partage et l'amour prévalent. Bien que certains jugent ce rêve utopique, il est important de rappeler que, à une époque, il était impensable qu'une femme puisse voter et pourtant, cela est devenu une réalité. Nous avons le pouvoir de changer les choses, même avec une seule voix. Il est temps de nous unir, de crier ensemble pour que notre combat ne soit pas relégué au rang de légende, mais qu'il contribue à faire évoluer notre société vers un avenir plus juste et respectueux pour tous. » Émilie parle beaucoup, comme quelqu'un de pressé. Oui. C'était un extrait de « N'avons-nous pas crié assez fort ?» Émilie, avec Myriam Leroy. Juste une phrase, la dernière, de « Vers la lumière ». La puissance des femmes passera par de nouvelles formes de narration et par l'action collective. Hélène, avec Agnès Van Nouvong. Extrait du dernier texte, intitulé « Les petites filles d'Internet ». M, avec Agathe Charnay. Tellement de pièges guettaient les petites filles des années 2000. Tellement de loups affamés les traquaient à la croisée des chemins quand elles s'aventuraient naïvement seules dans les bois. Tellement de légendes, de liturgies et de contes leur ont enseigné depuis des millénaires à être les plus gentilles, les plus serviables, les plus douces, à dire oui, 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 encore, à tout, à se taire après, à ne surtout pas répondre non, car répondre non, ce serait blesser le désir insatiable de l'autre. Ce serait commettre une grave faute, ce serait être méchante, ce serait être répudiée. M, comme moi et comme tant de filles des années 2000, n'avons pas échappé aux tentacules de la discipline acharnée infligée au corps pour le rendre plus jeune et sexy même à 15 ans, à la terreur de déplaire aux hommes, à la confusion intrinsèque de l'amour romantique et de la soumission. M, comme moi et comme tant d'autres, aspirantes princesses Disney, avons tendu les bras à l'étreinte de l'emprise et de la possessivité, à la quête de ce qui laisse en larmes, sidérée et suffocante, et que l'on nomme pourtant toujours amour. M comme moi, et comme presque toutes, avons déjà entendu dire qu'on était ça, et pas qu'au lit, des salopes, des grosses putes, et très vite, ça n'a plus rien eu d'excitant. Ça a même commencé à faire très mal, à faire peur. Ces mots-là, en soi, ça ouvre des gouffres incommensurables, des trouées abyssales. Ces mots-là en soi, ça fait disparaître les frêles barrières de protection de façon instantanée. Et il n'y avait personne, à l'orée des années 2010, pour nous expliquer quelque part, sur YouTube ou sur MySpace, qu'il fallait cesser de crier « oui, 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 encore ». Personne pour nous parler de pornographie éthique, queer ou alternative. Personne pour nous apprendre, face à l'insistance et à l'opprobre, l'importance de refuser. Ces lectures vous donnent peut-être la nausée et ne vous donnent pas envie de lire ce livre. Vous pensez peut-être encore que ça ne vous arrivera pas ou que vous n'êtes pas concerné. Il y a quelques jours, je regardais des publications sur un réseau social. En dessous d'une publication banale, quelqu'un a fait un trait d'humour. J'avais déjà lu cette expression, que sans la comprendre, j'avais assimilée à une publicité que je ne connaîtrais pas, puisque jusqu'à présent, je ne comprenais pas la référence. On dit merci qui ? Merci Jackie et Michel. Retour au premier texte de Lorraine de Fouché. L'un des réalisateurs qui travaille pour Michel Piron explique avoir rapidement compris que pour Michel Piron, une femme devant une caméra, c'était un morceau de viande qu'on mettait en présence d'un ou de plusieurs chiens à qui on donnait à manger en leur disant « faites-en ce que vous voulez ». D'après lui, Michel Piron aurait lui aussi revendiqué la violence de ses vidéos. « Je veux que ces filles se fassent défoncer, vous me les défoncez, contentes ou pas, on s'en fout ». Un autre réalisateur admet que certains des acteurs se comportent comme des gros porcs et qu'il a le même problème de main-d'œuvre que Pascal Hoppé, qui le contraint à devoir trouver des filles, le plus souvent sur des sites de rencontres. Le commandant de police, chargé alors de l'enquête sur la plateforme Jackie et Michel, écrit à la fin de son rapport « Jackie et Michel étaient un réseau structuré permettant l'exploitation des actrices victimes, profitant de leur faiblesse et de leur détresse économique et sociale, des rabatteurs les manipulaient et les incitaient à des tournages pornographiques en leur promettant la fin de leurs ennuis pécuniaires. Lors de ces tournages aux mains de réalisateurs sans scrupules, tournages pour lesquels elles n'étaient pas toujours payées et aux pratiques souvent violentes, elles n'étaient pas respectées. Elles étaient parfois l'objet de viols à l'occasion des scènes, mais aussi en dehors des scènes prévues. Ayant servi au tournage de deux voire trois scènes pornographiques, ces femmes ne leur étaient plus utiles et restaient seules confrontées au dédain, voire à la honte affichée dans leur milieu familial ou professionnel, les plongeant dans une détresse encore plus intense. Plusieurs de ces femmes avaient fait état de tentatives de suicide à la suite de tels tournages. Chez Jackie et Michel, comme dans l'affaire French Bukkake, une épidémie d'envie de mourir frappe les victimes. Quelle autre société de production génère autant de tentatives de suicide? Quelle société de production générant autant de tentatives de suicide n'aurait-elle pas été l'objet immédiat d'une enquête afin d'être régulée ou interdite? Peut-on imaginer une usine ou une entreprise dont autant d'ouvriers ou d'employés tenteraient de se suicider dans l'indifférence générale? Ainsi, les récits de cet ouvrage sont les rares témoignages de cette barbarie masculine filmée. Il tente d'établir cette solidarité au sein de la classe des femmes, entre des autrices qui ont le privilège des mots à offrir et celles sur lesquelles cette violence s'est abattue. Nous incombe désormais à nous, lecteurs et lectrices, de lire la documentation de cette prédation et de nous interroger sur la fabrication de ces images ainsi que sur leur signification politique. Lorraine de Fouché. C'était ma rencontre avec Sous nos regards.